François, qui imagina Odyssée en 2014. Son second roman, évidemment, c'est celui qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, donc s'appelle Les océans stellaires et il a été publié en 2016. Alors, Daniel Martin-Gol dit de son CV qu'il ressemble à une perte de vin. En effet, les filles d'un père né à Saint-Georges et d'une mère née à Meursault, elle vient tout le monde en pleine période des vendanges 1949 au grand cœur des vignobles bourguignons. Donc, Daniel peut être un petit peu loin de l'eau, là, pour le coup. Hein. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà, je sens qu'on va faire un. Voilà. Elle découvre par hasard les livres de science-fiction de son grand-père et devient fan de SF dès l'âge de 11 ans. Enseignante, aujourd'hui en retraite, elle a publié des dossiers pédagogiques chez Hachette. Donc, ça, c'est une partie de sa vie. Et l'autre partie, elle décide donc pour ses enfants et ses élèves d'écrire un jour un premier roman, L'Or Bleu. Elle remporte le Grand Prix d'Imaginaire 2002 en catégorie jeunesse pour le premier tome d'une trilogie, Les Abîmes d'Outre-mer. Alors, qui évidemment viennent d'être réédités et qui nous intéressent plus particulièrement donc, aujourd'hui. Son best-seller, Les Oubliés de Vulcain, met en scène un héros génétiquement modifié. La suite de Charlex est parue en 2013 et son actualité, eh bien, c'est la série Aventure à Guédelon aux éditions ActuSF avec deux titres, Les Tirs qui pleurent et Le Maître Chêne. Voilà, et les deux derniers donc sont du livre, il faut aller évidemment les voir. Alors, excusez-moi. Estelle Faye, après avoir suivi des cours de théâtre à Paris et à San Francisco, Estelle se consacre à la réalisation et à l'écriture. Elle scénarise plusieurs courts-métrages dont elle est récompensée par le prix France Télévisions. Et la première publication d'Estelle est une nouvelle dans l'anthologie Dragon, publiée en 2009. Et la première était, c'est des gens qui sont peut-être un peu connus sur ce festival et qui ont fait démarrer un incroyable de jeunes auteurs chez Rivière Blanche, une super petite maison d'édition. Donc voilà, je tenais un peu à saluer leur travail aussi, il ne faut pas les oublier.
Bon, merci, merci beaucoup Estelle. Donc elle publie en 2012 son premier roman pour la jeunesse, La Dernière Lame, et début 2013 son premier roman adulte, Porcelaine. Elle poursuit dans cette veine en enchaînant les trois volumes de La Voix des Oracles à partir de 2014, tout en publiant ses apparitions dans diverses revues et anthologies. Ça va. Bon. Alors, ensuite, excusez-moi, je vais faire Ariane. Ariane Gélinas, qui est donc une des invitées québécoises du Festival des Imaginales. Donc, Ariane est née à Grande-Pile en 1984. C'est près de, c'est entre Québec et Montréal, hein, parce que Grande-Pile, ça ne va pas vous dire grand-chose. Elle a publié une cinquantaine de nouvelles dans plusieurs périodiques. Elle est directrice littéraire de la revue Le Sabord, également directrice artistique, co-éditrice et co-directrice littéraire du magazine Brin Déterminé. Elle est auteure de 5 livres, L'enfance en visage, la trilogie Les villages assoupis, publiée donc au Marchand de feuilles, et le recueil Le Sabbat des éphémères. Donc le dernier ouvrage d'Ariane, ce sont les cendres de Célula que vous avez donc à la vue du livre sur le stand donc, des auteurs. Voilà, et je vais terminer par Miro Pémalo, qui est né en Normandie, qui est venu à Paris pour ses études. Et alors, Miro précise qu'elle est fonctionnaire, mais ben, ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse surtout, c'est évidemment son travail d'auteur. Elle est nourrie de mythologie grecque, de littérature, jeunesse et de séries télé. Et elle offre avec Sorcière Madeleine, donc son premier roman, développé depuis en 3 tomes, dans le cycle de L'héritière des Raven. C'est ça, Miro Pémalo. Voilà. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quel est votre rapport personnel avec l'élément liquide, mer, océan, lac, rivière, étang?
Oui. Oui. Moi, c'est le micro. Alors, mon rapport personnel, tout simplement, moi, j'ai toujours grandi près de la mer. Donc, c'est vrai que c'est un élément que j'ai connu dès ma plus tendre enfance. Je me sens à l'aise, en fait. C'est une source de calme. Je suis plus eau salée qu'eau douce, donc dans le thème de cette table ronde, ce sera plutôt océan qu'étang ou lac. Moi, j'ai une fascination pour les océans, je suis également plongeur, donc j'ai plongé dans différentes mers du globe, on va dire. Et il y a des choses. chose incroyable, c'est comme s'il existait un autre monde qu'on ignore le plus souvent, et un monde en plus tridimensionnel, c'est-à-dire que dans notre monde sur Terre, on marche globalement, on est sur un plan, dans les océans, on est quelque part dans l'espace, puisqu'on a ce plan également, on a cette profondeur, si vous soyez à 2, 5, 10, 20, 40 ou 50, ce que vous voyez est complètement différent. Donc, c'est un élément extrêmement, encore une fois, apaisant, et pour moi, c'est un élément quasiment de merveilleux.
Plutôt version grand bleu que version les dents de la mer.
Plutôt version, alors, je ne sais pas si les gens comptent, quand j'avais vu les dents de la mer. plutôt version grand bleu que les dents de la mer, exactement.
Alors, moi, j'aime mieux être dans l'eau que dessus, parce que j'ai le mal de mer. Alors, donc, mais c'est dramatique, hein, aussitôt que je suis sur un esquif, quel qu'il soit et qu'il bouge, ça ne va pas du tout. Bon, il paraît que c'est une question d'oreille interne, je ne dois pas être configuré pour ça. En revanche, j'ai eu un rapport assez difficile à l'apprentissage de la natation, parce que mon père voulait absolument m'apprendre à nager, il n'avait pas la pédagogie du tout nécessaire. Et finalement, c'est un monsieur qui était près de nous, un camping, qui a eu pitié de la petite fille, en voie de traumatisée que j'étais, et qui a voulu m'apprendre à nager, et qui m'a emmené dans l'eau et qui m'a dit, tu vois, voilà, l'eau, c'est une amie. Une amie, c'est fait pour envelopper et protéger. La première chose que tu vas faire, c'est descendre dans l'eau. Alors que j'en avais tellement peur, Et puis, il m'impressionnait, c'était vraiment un monsieur absolument charmant. Donc, il m'a dit, tu passes ton mur et tu descends. Et je suis descendu et j'ai ouvert les yeux tout de suite. Je suis absolument incapable d'être sous l'eau sans ouvrir les yeux. Et j'ai découvert un univers totalement différent de celui qui était au-dessus, dans la mesure où d'abord j'étais myope et que je voyais, j'avais pas encore de lunettes à l'époque, je voyais peut-être pas très net un horizon assez lointain. Et là, dans l'eau, d'un seul coup, j'ai vu ce mouvement, ces reflets, etc. Enfin, ça m'a fasciné. Et j'ai tout de suite aimé être dans l'eau. Voilà. Et puis après, on a voulu m'emmener en bateau. Et là, c'était beaucoup moins rigolo. Hein. Là, c'était... voilà.
Alors, moi, je suis absolument droguée aux océans. C'est vraiment... les océans me fascinent depuis toujours. J'ai eu je ne sais pas combien de titres quand j'étais môme à force de plonger sous les vagues de l'océan Atlantique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'entends plus trop de l'oreille gauche, pour ceux qui m'ont vu en dédicace. Et vraiment, j'essaie de retourner au bord de l'océan Atlantique chaque fois que je peux, de me prendre des plages pour écrire en Charente-Maritime. Quand on est posé au bord de l'océan, on se sent complètement minuscule. C'est un élément que, de toute manière, avec toute notre technologie moderne, on n'arrive pas à maîtriser. J'ai fait récemment un tournage en conditions naturelles au bord de l'océan et, quelles que soient les météos qu'on écoute à l'avance, de toute manière, la météo sur place va nous échapper. De toute manière, l'océan ne va pas se comporter comme on l'avait prévu et il faut gérer ça. Et justement, on est insignifiant, mais comme on est insignifiant, on est vraiment libre en même temps. On est libéré de tous les jeux sociaux, de tous les carcans sociaux face à cette énorme masse liquide, face à ces horizons extraordinaires. Finalement, nos petites considérations quotidiennes et nos petits tracas quotidiens semblent très futiles et ça met les choses vraiment en perspective. Et en plus, les océans, comme disait Loïc, c'est complètement un monde de mystères, de contes, de mythes, de profondeurs dans lesquels peuvent se nicher des créatures absolument extraordinaires. L'océan, c'était le bord des cartes où il y avait les monstres sur les cartes anciennes. C'est les kraken qui peuvent surgir des profondeurs. Et enfin, pour moi, l'océan a aussi une dimension politique et engagée qui me passionne. Je suis une grande fan de romans pirates, alors moi, c'est une île dans la mer, des grands bleus, c'est l'île au trésor. Et l'océan, je suis passionnée de l'époque des grands voiliers, du monde dans des conditions hyper difficiles, dans des conditions de vie parfois atroces. On inventait vraiment la liberté sur la mer. Et tout ce qui s'est passé avec les corsaires, avec les pirates, et mine de rien aussi avec des petits marins qui partaient dans des voyages, je ne sais pas s'ils allaient revenir, c'est tout à coup des petits gens, très humbles, découvraient des horizons immenses, découvraient de nouveaux mondes, découvraient de nouvelles manières de voir le monde. Et eux-mêmes, des petits gens qui parfois ne savaient, enfin qui souvent ne savaient pas nager, qui très souvent ne savaient pas lire, se mettaient à réfléchir à la liberté, se mettaient à réfléchir à leur statut dans le monde. Et c'est vraiment l'un des ferments de la pensée de la liberté moderne. Et voilà.
voilà, c'est rien pour ça aussi que ça me passionne forcément. Alors moi, c'est vrai que j'aime l'océan aussi. Je n'aime pas la piscine, par exemple, parce que je trouve que c'est de l'eau en boîte et que c'est une sorte de privation de liberté de cette eau, et je trouve ça vraiment terrible. Mais j'aime être au bord de l'eau. J'ai eu un rapport, on va dire, facile avec l'eau. J'ai pas eu de problème pour apprendre à nager et tout ça. Mais j'ai eu les dents de la mer. Et alors là, c'est devenu plus compliqué, on va dire, d'aller dans une eau où on a les papiers, tout ça, tout ça. Donc oui, ça a fonctionné à plein sur moi, le traumatisme, mais je me soigne, je lutte contre ça. Donc il y a une double approche, on va dire, à la fois facile, voilà, j'aime être au bord de la mer, au bord de l'océan, mais les profondeurs, tout ça, voilà, c'est plus compliqué.
J'écoutais Daniel parler tout à l'heure, puis il me disait c'est l'inverse dans mon cas. J'aime bien être sur la mer à côté, à la regarder, à la contempler, mais dedans. Alors là, c'est là que. Et puis je fais peut-être un petit peu plus ambivalente quant à la peur, peut-être, de l'eau, que je peux avoir une certaine méfiance qui est liée surtout à la large surface consciente, puis également à la sensation de l'eau. Et d'ailleurs, dans le roman que je présente ici, Les Sondes de Selma, il y a cette espèce d'allergie à l'eau qui est mise de l'avant, qui crée une réaction sur l'épiderme, également quelque chose de physique qui peut se produire là, mais tout le côté contemplatif était très présent chez moi aussi. J'ai passé, alors on parlait de grandes piles pour vous situer, c'était un tout petit village, même pas 400 personnes, entre Québec et Montréal, oui, mais assez isolé, et sur lequel après, toutes les maisons ont une vue sur une rivière qui est magnifique. Alors j'ai passé la majorité de partie de mon enfance à regarder cette rivière, le Saint-Maurice-là, en étant fasciné, mais une sorte de fascination qui prenait sa source dans la distance. Parce que je me rappelle, je sais nager, si on me pose la question souvent, pourquoi tu as une méfiance là-dessus, je sais nager certes mal, mais c'est un peu comme si je préférais garder la distance mais, et aborder le sujet dans mes œuvres littéraires. Il y a quelque chose qui m'effraie là-dedans, c'est-à-dire que j'écris du fantastique aussi, alors avec un mélange fascination de qu'est-ce qui se cache dans les eaux et être réellement envie de rencontrer ces créatures-là.
Oui, donc c'est vrai qu'à travers vos réponses, finalement, on voit bien à travers votre rapport personnel avec l'élément liquide, on voit bien fascination, parfois rejet, parfois circonspection, parfois les deux, ambivalence. Donc je crois que c'est un élément qui n'est pas du tout innocent. Ouais, évidemment, l'histoire des dents de la mer, c'est un détour un petit peu facile, mais c'est vrai que c'est un film qui a quand même cristallisé souvent les peurs par rapport justement à l'océan, pas forcément à l'océan liquide. Alors, justement, par rapport à vos œuvres, finalement, le voyage maritime, c'était quand même le modèle de la littérature occidentale avec l'Odyssée, quand même, hein, cette immense épopée, mais qui se passe sur l'océan et qui est à la fois une fascination évidemment pour le voyage, pour l'océan, pour l'imaginaire, mais aussi évidemment pour les peurs de ce qu'il y a dans l'océan, pour donc, toutes ces créatures terribles que Ulysse va rencontrer donc, lors de son voyage. Alors, moi, j'aurais envie de vous dire, finalement, comment est-ce que vous vous servez de cet élément, quel qu'il soit, océan, rivière, lac, dans vos œuvres? Est-ce que vous voulez développer, donc, est-ce qu'elle a un thème politique, presque, mais un thème écologique? C'est peut-être pour Daniel, des thèmes fantastiques, des thèmes magiques. Voilà, comment est-ce que l'eau est intégrée dans vos récits?
Dans le cas des eaux sorcières, il y a une double intégration. La première, c'est celle que vous évoquiez, c'est-à-dire que bon, les eaux sorcières, c'est de la science-fiction, je précise, et c'est du space opera. Et c'est vrai que ce qui me paraît le plus proche de la conquête des étoiles, c'est en effet la conquête maritime qui a eu lieu, on va dire, 1400, 1500, 1600, 1700, avec ce que décrivait très très bien d'ailleurs Estelle, avec ses grands aventuriers, parfois des gens extrêmement humbles qui venaient découvrir tout. D'ailleurs, personne n'était jamais allé. Et je pense que si on doit chercher la réplication en termes de psychologie, en termes de rêve, en termes de peur également, c'est peut-être ce qu'on trouve de plus proche. Donc, ça, c'est le premier niveau. Donc, s'inspirer de ce qui s'est passé pour la conquête des océans et des terres inconnues, pour la répliquer sur la conquête des patient, donc peut-être il y avait une probabilité de potentialité de vie qui était plus élevée, puisque les immunités perdent plus facilement la vie. Mais ça me paraît intéressant, puis ça me permet aussi d'avoir donc une action qui se déroule en partie dans l'espace, mais beaucoup dans l'océan. Mais en fait, il y a une action qui se déroule dans l'océan, avec les codes de l'espace, avec les codes de la conquête. Alors, d'où cette remarque de quelqu'un, je pense qu'elle est assez juste. C'est un peu le premier space opéra sans space, c'est plus un water opéra qu'un finalement un space opéra.
Peut-être un nouveau sous-genre.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
On peut nous montrer n'importe quel tableau absolument magnifique, etc. Enfin bon, je suis comme tout le monde impressionné par des belles images et des beaux tableaux. Mais moi, il n'y a rien qui me fascine plus qu'une vue de la Terre, vue de l'espace. Cette boule bleue, la planète bleue, pour moi, elle a toujours été absolument fascinante. Et surtout, très jeune, j'ai eu conscience, parce que je lisais beaucoup de space opéra, où il y avait des méchants extraterrestres qui venaient attaquer la Terre et bouffer les terriens. Et j'ai toujours été consciente qu'elle était fragile, que la Terre était une planète qui finalement apparaît extrêmement maritime, hein, quand on la voit de loin, la surface des océans est quand même gigantesque, et qu'elle était très fragile. Et je suis resté toujours avec cette vision de notre petite planète bleue, avec l'immensité de l'univers autour. Et j'ai toujours relié les deux. Tu parlais d'écologie tout à l'heure. Pour moi, c'est une évidence. Quand j'interviens devant mes jeunes lecteurs, puisque c'est principalement la littérature jeunesse que j'écris, je leur explique que nous sommes à bord d'un vaisseau spatial, que nous avons une coque qui est notre atmosphère, que nous sommes l'équipage d'un vaisseau spatial, que nous avançons en permanence dans l'espace, etc. Et que ce vaisseau, il est fragile, et que cette fragilité, il faut en être parfaitement conscient pour la protéger, la planète. Donc voilà, j'ai créé une planète maritime avec Outre-mer, mais en fait, quelque part, elle s'appelle Outre-mer, elle aurait pu s'appeler Outre-terre. Hein. C'est cette notion-là que j'ai voulu montrer dans le roman. L'immensité des océans qui occupent toute une surface planétaire. Alors, je suis parfaitement conscient que plusieurs personnes qui sont spécialistes de météorologie m'ont dit que c'était très très impossible, c'était probablement impossible d'arriver à vivre sur une planète entièrement maritime du fait des courants, des tempêtes, enfin de tas de choses comme ça. Donc, j'ai occulté un petit peu ça parce que ça m'arrangeait de faire vivre des personnages dessus, très peu dessus en fait. Il y a quelques milliers d'îles, mais beaucoup de sous aussi. Hein. Les villes, les moyens de transport, etc., dans les abîmes d'outre-mer sont sous-marins. Et c'était ça qui m'intéressait, de montrer aussi un autre système écologique, mais basé sur la présence, l'omniprésence des océans. En fait.
Oui, c'est vrai qu'une planète constituée uniquement d'océans, on a souvent des représentations qui sont faussées. Je pensais notamment au film Interstellar, où on se retrouve sur cette planète d'eau, avec de l'eau, une gigantesque vague qui arrive.
Oui, oui.
C'est totalement invraisemblable. C'est vrai qu'on a du mal aussi, peut-être, à faire une description réaliste d'une. La plus proche du réel.
L'avenir de la Terre est conditionné à l'eau. C'est évident, où on en aura trop, on en aura pas assez. Où j'ai écrit l'or bleu, où on en manque, et j'ai écrit Outre-mer, où il n'y a plus que ça.
Non, mais comme ça, ça crée un équilibre, Estelle.
Quand vous parliez de littérature de voyage, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est au centre d'une partie de Bohème. Et d'ailleurs, c'est un peu le thème du festival cette année, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Parce que, notamment dans la littérature, mais aussi dans la société en général et dans le monde actuel, il y a une grosse tendance à vouloir enfermer les romans, les gens, les choses dans des cases, à avoir notamment des catégories sociales qui sont de moins en moins mobiles, à vraiment avoir des systèmes qui sont de plus en plus enquistés, qui bougent de moins en moins. Donc avoir des espaces de liberté de plus en plus réduits. Et le voyage, c'est ce qui permet de sortir des cases. Ce que j'aime aussi dans les littératures de l'imaginaire, c'est que ça permet vraiment de voyager en imagination et ça permet de sortir de sa carcasse. Ça permet, le temps d'un roman, d'être, ici par exemple, un moine apostat dans un monde inspiré d'Europe centrale, Europe de l'Est, qui est en train de vivre une fin de Moyen-Âge, des pleurs de naissance. Ça permet d'entrer dans la peau d'un légionnaire romain ou d'entrer dans la peau d'un astronaute du futur. Et de voir le monde autrement et avec d'autres yeux, de faire tous ces voyages-là. Et donc le voyage est vraiment essentiel pour préserver la liberté humaine sur Terre. Et le monde de Bohème, c'est un immense empire qui tient depuis 10 siècles. les fleurs, l'essentiel du commerce est assuré par l'équivalent local des gitans, qui sont évidemment très déconsidérés, qui sont hyper méprisés, mais qui au moins ont dans leur errance une forme de liberté. Et la partie océanique, celle qui est sur la couverture, c'est les ports des Havres, c'est tout à l'ouest de l'Empire, il y a un immense océan. Et au bord de cet océan, il y a les ports des Havres, qui sont un espace un peu plus tolérant que le reste de l'Empire. Par exemple, dans le reste de l'Empire, les sorcières ont fait ce qu'on fait d'habitude à ces époques, c'est-à-dire en gros, on les torture, on les brûle, enfin voilà, les trucs habituels. Et dans les ports des Havres, les sorcières qu'on appelle les mortaines, elles sont tolérées, même un peu respectées, même si elles restent quand même marginales. Et il y a une pensée parce que si, mine de rien, il y a des conditions de vie qui sont plus difficiles qu'ailleurs, donc on fait moins la fine bouche. Quand quelqu'un a des pouvoirs qui peuvent permettre, par exemple, de reculer un peu les vagues de la prochaine tempête, on va moins la brûler tout de suite quand même. Donc les conditions difficiles aident paradoxalement à ce que cette partie-là du monde soit plus tolérante. Et les marins des Havres qui aussi, mine de rien, pour la bâton, ont développé quelques technologies un peu en avance sur le reste de l'Empire, pourraient faire contrepoids au pouvoir de la capitale. S'ils pouvaient traverser l'océan, s'ils pouvaient conquérir un nouvel horizon, simplement, donc depuis 10 siècles, depuis que cet empire est installé, sur l'océan, au large des côtes, il y a des vaisseaux noirs sur la couverture, des vaisseaux maudits qui, a priori, ne sont pas forcément humains, enfin, on ne sait pas trop, parce que tous ceux qui sont approchés assez près sont parvenus en assez bon état pour raconter ce qu'ils s'y trouvaient vraiment. Et c'est une fantaisie chorale, donc on suit plusieurs personnages qui vont changer le destin du monde alors qu'ils n'étaient pas du tout préparés. Qui vont faire chuter cet empire, et parmi ces personnages, une figure centrale, c'est Maeve, c'est une petite Morgane qui n'a pas trop de pouvoir, une petite sorcière qui n'a pas trop de pouvoir, qui n'est pas non plus ni très belle, ni très musclée, c'est pas une grande guerrière, mais elle a un grand rêve. Elle veut libérer les océans. Elle veut que les marins puissent aller au-delà de l'horizon. Et ce rêve va la pousser à aller jusqu'à la capitale. Donc ce rêve va la pousser à sortir de ce que la société avait prévu pour elle, et à se dépasser elle-même. Même si elle sait au début que, les Havres sont tolérants, mais jusqu'à un certain point, elle sait que comme elle est une femme, on ne lui permettra jamais de monter à bord des grands navires. Mais elle sait aussi, elle le sent, que pour pouvoir changer, pour pouvoir devenir libre, le monde et l'être humain a besoin de nouveaux horizons. Et aujourd'hui, on parlait de Space Up avec Louis Dormy. Peut-être que l'une des choses qui manque à l'humanité, c'est que globalement, on a abandonné le rêve d'aller vers les étoiles. Et on a abandonné ce nouvel horizon, on est en train de se recroqueviller sur notre petite planète, on est en train de l'épuiser justement, d'épuiser ses ressources. Et on est en train, quelque part, de se déchirer entre nous, plutôt que de tous ensemble essayer à nouveau d'étendre notre champ d'action et d'étendre à nouveau nos horizons, en réactivant peut-être ce vieux rêve d'étoile.
Le rêve d'étoile est quand même bien vivace encore, hein, parce que justement, à travers des découvertes, notamment découvertes des astrophysiciens, ça a relancé, même s'il faut être réaliste, je veux dire, on n'ira certainement pas, mais ça a réactivé quand même un certain nombre
de choses. Ce que je vois par rapport à quand j'étais jeune, justement, t'as passé longtemps, quoi, enfin, j'espère, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi dans un monde où, globalement, quand je lisais du Space Opera, ou quand je lisais les revues pour Môme de mon époque, on croyait que, pas forcément vous, mais que l'être humain un jour allait aller vers les étoiles. Il y avait des hommes qui étaient allés sur la Lune, la prochaine étape était Mars, et ça, on avait une chance de voir de notre vivant. Et maintenant, oui, évidemment, il y a toujours les astrophysiciens qui découvrent les exoplanètes, etc., mais c'est devenu beaucoup plus désincarné. On nous dit, par exemple, oui, mais aller sur Mars, ça demande un investissement humain au premier qui irait là-bas, qui est absolument dantesque. Sauf que justement, les marins du 17e ou du 18e, quand ils partaient faire les tours du monde, ils savaient très bien qu'il y avait une petite proportion qui allait revenir en vie entière, mais que c'était vraiment pas tout le monde.
Ils croyaient qu'ils allaient tomber, certains marins qui sont partis avec Christophe Colomb, ils allaient tomber justement
Voilà, c'était des gens qui partaient sans avoir forcément un espoir de revenir. Aussi, ben, par exemple, dans toutes les histoires de Saint-Martin, il y a toutes les histoires de Saint-Martin, le marin. Saint-Martin, à la base, c'est un marchand, la première fois qu'il part, il dit « je pars pour faire fortune ». Et puis il rentre chez lui. Et là, il a fait fortune. Il n'a plus de raison de repartir. Et simplement, il s'aperçoit qu'en fait, il n'était pas parti pour faire fortune. Il était parti pour faire un voyage. Et même si le voyage est super bien, même si donc, il s'est bouffé par l'oiseau roc, enfin, ce genre de choses, finalement, une fois qu'il est à terre, même avec toute sa fortune, même avec toute la réussite sociale qu'il a, ce qui lui manque, c'est le voyage. Et peut-être que de nos jours, le monde est aussi en manque de nouveaux grands voyages.
Merci.
Chez moi, l'eau est liée à la magie. Alors, je suis une jeune fille
fait, c'est pas elle qui est liée directement à l'eau. Ça va être son petit ami Alec, qui est bien sûr le fils de la famille rivale, hein, sinon c'est pas drôle. Et lui, il va découvrir en fait qu'il est le fils d'une Néréide. Hein, donc, parce que j'aime effectivement beaucoup la mythologie grecque. Hein, et du coup, ça m'intéressait d'avoir des personnages liés à l'eau. Et en fait, ma sorcière Asya, elle va découvrir qu'il y a une caravelle qui revient tous les ans dans le port d'Esmos, donc qui est la ville où se passe l'action. Et c'est une caravelle en fait qui est magique, même s'il n'y a que la mairie qui étouffe la question. Mais elle va devoir intervenir dans le tome 1 à ça, parce que la caravelle commence à disparaître en fait, la magie s'affaiblit. Et avec ses petits pouvoirs naissants de sorcière, elle va être obligée de faire en sorte de partir le bateau pour qu'on ne se rende pas compte qu'il y a un truc qui cloche avec ce bateau. Et du coup, son petit ami qui ne sait pas encore lui qu'il est le fils d'une Néréide, à cette occasion, va découvrir ses pouvoirs en tombant dans l'eau et du coup en étant aspiré dans l'espèce de tourbillon qui engloutit la caravelle. Parce que là, on va découvrir aussi dans les tomes suivants qui envoie cette caravelle tous les ans. Donc, moi, c'est effectivement l'eau, l'océan, c'est vraiment lié à la magie et aux personnages mythiques qui y vivent. Dans le tome 2, il y aura une sirène que va devoir affronter Asya, parce que les sirènes, non, c'est pas forcément des personnages sympas du tout, du tout, du tout. Et il y a aussi un point très important dans le tome 2 qui est l'argument écologique, puisque mon héroïne va faire un projet qui s'appelle le projet Port Propre, donc pour nettoyer les eaux du port. Et donc, elle va étudier toutes les sources de pollution que peut créer un port avec ses plaisanciers et du coup essayer de trouver des solutions vraiment très pratiques. Hein. On est aussi dans notre monde et du coup dans notre contemporanéité, si je puis dire. Et donc, du coup, j'ai vraiment voulu la mettre face à des thématiques très actuelles. Voilà, il faut mettre plus de poubelles, il faut travailler avec les éboueurs. Enfin, voilà, on est vraiment sur des choses très, très pratiques. Mais du coup, je me disais que comme c'est une série qui est destinée aux jeunes, bah, c'est aussi leur montrer que voilà, l'écologie, ça se pratique, quoi, et que c'est aussi une réalité. Donc, il y a ces deux thèmes principaux par rapport à ma série.
Oui, alors, mais c'est intéressant parce que vous illustrez finalement une grande diversité, la science-fiction, donc l'écologie, hein, toutes les deux, la fantasy, je pense vraiment dans ce roman, Estelle, la mythologie et donc peut-être le fantastique, rien le fantastique québécois qui, le Québec, c'est aussi quand même une terre d'eau. Avec le Saint-Laurent, avec les grandes inondations d'ailleurs récemment. Et donc peut-être un élément liquide quand même perçu différemment, à travers aussi une mythologie, mais qui du coup ne sort pas une mythologie.
Une mythologie qui va faire partie de notre, j'en parle un moment d'exister ici, que nous avons au Québec, et l'événement aquatique se retrouve dans les centres de Sedna, qui m'ont dernièrement de différentes façons, entre autres justement avec le personnage de Sedna, qui est une déesse inuite qui serait à l'origine de la naissance des animaux marins, selon ce mythe de l'Arctique. Et puis pour vous le résumer brièvement, alors Sedna, à la suite de l'altercation avec son père dans une barque, selon ce que nous racontent les Inuits, alors il lui aurait coupé les bras, rien de moins, puisque bon, elle avait offert pour son grand mariage un homme oiseau, c'est la version brève, là, je m'applique. Et ensuite, ses bras ou ses mains, selon les versions, en tombant à l'eau, auraient donné naissance aux animaux marins. Et je trouvais, bien entendu, ce mythe arctique fascinant, et j'avais envie de le transposer également dans notre Saint-Laurent, qui est bien connu pour avoir des eaux tumultueuses et pour être pas évident à naviguer. J'ai aussi transposé le livre du côté du Labrador, mais essentiellement dans l'archipel de Tête-à-la-Baleine, qui rejoint un lieu aquatique qui m'interpelle pas seulement dans les cendres de Sedna, mais en général dans tout ce que j'écris, c'est-à-dire les îles qui sont justement ces terres entourées d'eau et qui peut-être témoignent par leur statut hybride en étant entourées d'eau, mais en étant quand même la terre de mon ambivalence dont je parlais tout à l'heure avec cette espèce de double zone qui est saturée, qui va être la frontière un peu sur le bord des vagues. Alors, il y a tout ça, et pour vous donner une idée de Tête-à-la-Baleine, alors oui, c'est un nom qui a l'air un peu exotique, et ça l'est même au Québec. C'est assez fréquent, mais les Québécois ne savent pas où c'est. C'est un autre tout petit village qui est seulement accessible en bateau pour un bateau de marchandises. Il n'y a aucune route qui sera là-bas. Internet, c'est un point à se dire. C'est parce que ça prend 7 minutes écrire, charger un courriel. J'ose dire qu'il n'y a pas Internet à Tête-à-la-Baleine non plus. Et la présence de l'autre je viens d'apprendre tout ça dans les centres de Saint-Lot, cette espèce d'ambiance unique qu'on peut avoir dans l'arrière-pays québécois par le biais de l'influence maritime avec les îles aussi et puis tout ce qu'elle a vous inspiré.
Alors, on voit évidemment que l'eau, les éléments liquides, véritablement, je dirais, font partie de vos imaginaires en tant que personne et bien sûr en tant qu'auteur. Mais est-ce que peut-être dans la constitution de cet imaginaire personnel, est-ce qu'il y a des lectures par rapport à l'eau, par rapport à l'élément liquide, donc en général, qui vous ont fasciné, qui vous ont terrifié, au point d'en faire vraiment une caractéristique de vos œuvres? Alors, je dis lecture, ça peut être aussi beaucoup plus large, ça peut être aussi des films, des documentaires, etc. Voilà.
Non, et avant de répondre, ce que je trouve intéressant, c'est en effet ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un panel de 5 personnes, on a à peu près tous les genres de la littérature, de l'imaginaire, on a de la science-fiction, on a de la fantaisie, on a du fantastique. Moi, j'ai un public plutôt adulte, il y en a qui ont un public plutôt adolescent, plutôt jeune ou un mix des deux. Et malgré cela, le thème de l'eau, et en particulier des océans, parce que je pense qu'on est un peu plus là-dedans en général, c'est un thème qu'on retrouve dans les 5 romans et encore d'autres. C'est-à-dire que ce thème des océans, ce n'est pas un thème ni de la fantaisie uniquement, ni de la science-fiction uniquement, ni du fantastique. C'est un thème extrêmement transverse. Et ce n'est pas non plus un thème jeunesse uniquement ou un thème adulte uniquement. Donc, c'est vrai qu'en écoutant mes quatre collègues, ça renforce encore mon opinion de l'universalité de l'eau en général et de l'océan en particulier. Pour répondre à votre question sur les lectures ou les films, la première réponse, c'est j'ai un petit peu parlé quand j'ai son nom, je m'en vais un peu, mais je crois que c'est Pierre Noyant qui a écrit qui a publié un livre sur les abysses. Ça avait beaucoup bien marché il y a une dizaine d'années, où c'était des photos en fait d'animaux ou aussi de plantes qui vivent dans les abysses. Et en fait, les photos sont incroyables. Quand on les regarde, on se dit non, c'est pas possible, c'est monté de toutes pièces, merci Photoshop, et ainsi de suite. Et pas du tout, c'est des vraies photos d'animaux dans les abysses. Certains font quelques centimètres, ils sont extrêmement colorés, ils ont des formes complètement fantasmagoriques.
C'est vrai que c'est presque des extraterrestres.
Les
photos sont tout à fait singulières.
Elles sont fabuleuses, je vous conseille, hein, si jamais, même si c'est un peu ancien. Et d'autres font. Des kraken, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est des toits. Il y a des photos de restaurants des kraken, donc c'est des équivalents de poupées géants qui peuvent atteindre 10 mètres, 12 mètres, ou même 20 mètres, 30 mètres. Et c'est incroyable ces photos-là. Et c'est vrai que moi, ça m'a. Quelqu'un a eu la gentillesse de me l'offrir, quelqu'un qui me connaissait bien probablement. Et j'ai trouvé ce livre fabuleux. Et j'ai reposé après, et je l'ai repris à l'écriture des océans stellaires pour. Sans trop décrire l'histoire, mais pour utiliser ces animaux dans l'histoire, alors en les transformant un petit peu, mais quelque part c'était un peu la base de départ pour la création. Les animaux qu'on peut retrouver dans l'histoire sur les différentes planètes sont différents par planète et ça permet de réfléchir à des écosystèmes suivant la topographie des planètes, justement, il y a aussi des planètes qui sont uniquement sous-marines. Et en tout cas, toutes les planètes ont un océan, donc il y a une interaction. Et l'interaction qu'on peut avoir, je pense que ça va rejoindre un point d'Estelle, c'est que sur Terre, en fait, on a une espèce dominante qui est l'homme. On pourrait très bien imaginer notre planète où une espèce dominante soit maritime. Et on pourrait imaginer des planètes où il y a plusieurs espèces dominantes, en fait, par exemple. Imaginons que le dauphin ait notre niveau de. Je ne cherche pas tellement d'intelligence, mais je ne trouve pas mieux. Mais en tout cas, c'est l'homme qui est dominant sur les mers. Mais imaginons que le dauphin soit dominant sur les mers chez nous avec une intelligence équivalente à l'homme et que l'homme soit dominant sur Terre. Et que, évidemment, quand on va dans le monde de l'autre, on a des avantages concurrentiels par rapport à lui. C'est-à-dire que le dauphin ne peut pas s'imposer sur Terre et l'homme ne pourrait pas, dans ce cas-là, s'imposer sur la mer. Il se passe quoi, en fait? C'est-à-dire que si jamais il y a un conflit entre les deux, ou même si il n'y a plus la conquête des Amériques, les terres sont coupées les unes des autres, donc il n'y a pas de contact. Et ça, je trouve que c'était intéressant d'avoir dans une logique parfois de conflit, mais aussi de. C'est mon côté un peu optimiste de développement, réussi à collaborer, on peut aller très loin. On peut aller beaucoup plus loin si on avait deux, voire trois, voire quatre espèces dominantes avec chacune spécificité et l'obligation de collaborer parce que de toute façon, vous ne pouvez, pas l'écraser. Vous ne pouvez pas battre le dauphin s'il est, meilleur que vous dans l'océan. Ça me paraît assez intéressant d'un point de vue histoire et d'un point de vue de création de, monde. Donc le livre, pour répondre à votre question, c'est vraiment très bien.
Merci.
Loïc a prononcé le mot abyss, alors donc moi c'est le film Abyss qui m'a profondément marqué parce que vraiment ce film, cette image de cet être d'eau qui approche, etc., c'est absolument fasciné. Il faut dire aussi que ce film a été réalisé à une époque où on n'avait pas encore des effets spéciaux obligatoirement aussi phénoménaux que maintenant. Et ce film qui montrait qu'il y avait une population, si j'ose dire, qui vivait dans le fond de l'océan et puis qui était là en symbiose complète avec le monde sous-marin, moi ça m'avait vraiment fasciné. J'ai toujours été fasciné aussi par autre chose, c'est que c'est souvent les mêmes mots pour le liquide et l'espace. C'est-à-dire, on va dire les abîmes, voilà, pour les abîmes, etc. Mais on va dire aussi les abîmes dans le ciel, enfin, etc. On parle de courant, on parle de tourbillon, on a un vocabulaire assez semblable entre l'eau, enfin, les océans et le vide. Et moi, en fait, c'est ce qui me fascinait, qui rejaillit dans ce roman, c'est-à-dire que les abîmes sont des vaisseaux spatiaux, ils vivent, ils sont dans le fond de l'océan de leur planète, et à un moment donné, ils en jaillissent, exactement comme on voit dans l'abîme, justement, aussi, des jaillissements comme ça. Et puis, ils partent, voilà, ils vont jusqu'à l'espace. Et donc, ce contact entre la matrice, la naissance mère, nous sommes sortis de l'eau. Nous sommes des êtres de l'eau, hein. Il n'y a pas de problème. Depuis avant la naissance, nous évoluons dans l'eau. Donc sortir, jaillir, la naissance, l'accouchement, si j'ose dire tout ça, c'est pour aller plus haut, grandir, s'envoler, aller jusque vers l'espace. Et pour moi, c'est cette notion-là de la vie. Moi, j'ai toujours voulu privilégier dans mes livres la vie à la machine. Des machines science-fiction. Voilà, je me méfie des machines. J'ai été élevé dans une usine. J'ai fait des machines autour de moi pendant toute mon enfance. Et les machines, ça peut être dangereux. C'était déjà dangereux pour la petite fille que j'étais quand on me disait surtout tu t'approches pas trop des scies, surtout tu fais attention à ça, etc. Les machines peuvent être dangereuses. Et c'est resté assez profond dans mon esprit que le vivant était beaucoup plus positif. Hein, que là, on a de la douceur. Colère, on peut avoir n'importe quoi, hein, on peut être attaqué par une méchante bestiole, mais c'était pas pareil. La machine, je m'en suis toujours beaucoup méfié. Ceci dit, un jour, on m'a demandé dans un festival quelle était la chose, la machine que je sauverais avant tout, et j'ai répondu ma voiture, parce que c'est aussi un moyen de cet voyage. Voilà, je te rejoins. Hein. Si j'ai une seule machine à sauver, c'est l'automobile. Parce qu'elle est pratique, elle nous permet d'aller loin et puis assez vite, etc. Alors, beaucoup de mes collègues avaient dit l'ordinateur. Moi, je n'avais même pas eu ma voiture. Parce qu'il y a justement cette notion de liberté d'échapper à quelque chose, etc. Et mes abîmes, c'est ça. Ce sont des vaisseaux allégoriques, si j'ose dire, de symboles de privilégier la vie plutôt que de n'importe quoi d'autre. Mais la vie est bien jouée.
Abyss, c'est un bon exemple, en fait, qui montre bien aussi la dimension fantasmatique de l'océan, c'est-à-dire entre fascination, terreur, parce qu'il y a quand même une part de terreur dans ce film, justement, par rapport aux êtres qui vivent, la terreur d'être enfermé, d'être écrasé par la pression dans ce monde, et puis cette élévation finale, justement, cet apprivoisement, finalement, des...
par Abyss, ce qui est très frappant, c'est la noyade volontaire, aussi.
Oui. Mais quand on est dans l'eau, comme tu disais, il n'empêche qu'on peut passer par l'eau quand on était émigrant. C'est un peu la dualité aussi de l'humain par rapport à l'eau. C'est un bon exemple. Estelle?
Alors, moi, je suis une grosse dévoreuse de romans maritimes. J'ai déjà parlé d'Île au Trésor, qui est vraiment un de mes romans fondateurs. J'ai lu aussi beaucoup trop jeune Typhon de Conrad, qui montre vraiment qui échappe à l'homme sur l'océan exacerbe complètement tous les sentiments, toutes les tensions, toutes les émotions humaines. Comment ça agit vraiment comme un révélateur et en même temps comment l'homme est broyé par ça aussi. Et dans les, j'ai pas beaucoup lu littérature jeunesse quand j'étais jeune, mais il y a un roman de science-fiction jeunesse qui m'a énormément marqué, qui est de Christian Léourier, qui est quelque part dans la bulle du livre. Et enfin, j'espère qu'il y aura. Qui est Jarvis, le messager de la grande île. Et c'est une planète océan dans l'espace qui est secouée par d'immenses tempêtes. Donc il y a quelques habitations humaines, quelques ports humains, mais qui sont vraiment menacés par ces tempêtes. Et surtout, avec les tempêtes, sortent de l'océan des sortes d'immenses kraken. Et Jarvis est chargé de chasser les kraken. Donc c'est un harponneur qui va tuer les kraken qui attaquent le port. Et peu à peu, il commence à se poser des questions sur ce qu'il fait. Notamment en se disant que les kraken qui arrivent, déjà, c'est peut-être que des bébés kraken, en fait. Et que, déjà, ils sont terrifiants pour un homme, il a peut-être des beaucoup plus grands dans l'océan. Et surtout, peu à peu, il a l'impression de commencer à communiquer avec ces kraken. Et de se dire que peut-être les chasser, c'est pas la solution. Et c'est vraiment un des romans qui, à la fois, est un superbe roman d'aventure. Et en même temps, c'est un roman hyper humaniste qui, justement, pousse à dépasser les a priori qu'on a pour aller chercher une vérité qui n'est pas juste le truc le plus évident qui va nous sauter à la gueule. Donc ça, c'est un roman qui m'a énormément marqué. J'ai beaucoup lu sur les contes des océans aussi, les histoires de Vilbis, un recueil de légendes chez Grimm qui s'appelle Les contes des rivières, des océans et des mers et des lacs, qui est sublime. Voilà, et qui, lui aussi, c'était toute la partie vraiment pour le coup très magique des océans. Enfin, évidemment, une de mes grandes références, enfin, évidemment, pour ceux qui me connaissent un peu, comme ce que je fais, c'est que je suis une grosse fan de Lovecraft, et notamment de toute la partie océanique de Lovecraft. Mine de rien, voilà, que toujours dans Riley la Morte, Rêver à temps au cœur des océans, Dagon, c'est toute la partie océanique obscure de Lovecraft, le Gulf Martin Smooth, qui est toute cette ville donc, peuplée par des hommes qui peu à peu. Se transforme au contact de forces obscures sorties de la mer. C'est des choses qui, à la base, sont la littérature aussi, de terreur qui peut faire peur, qui peut angoisser. Mais c'est toute la partie angoissante des océans en même temps. Elle n'est pas si angoissante que ça, je trouve, parce qu'elle nous dit que finalement, il y a quelque chose de plus grand et de plus étrange que l'homme qui existe. Et même si c'est quelque chose qui peut être terrifiant, qui peut nous broyer, qui peut nous transformer, c'est aussi bon que ça existe parce qu'on a envie d'un monde qui soit réduit qu'à notre petit quotidien de terrien, quoi. J'espère pas.
Et t'as pas Moby Dick, Destin ?
Non. Moby Dick, moi, en fait, parce que je trouve que c'est plus. Finalement, Moby Dick, c'est plus le roman sur l'obsession d'un homme, mais ça transcende moins son sujet que ce que fait par ailleurs Typhon ou ce que fait Jarvis. Enfin, voilà. Désolée pour les fans de Moby Dick dans la salle, vous pouvez me lire après. Alors moi aussi, comme Daniel, j'ai été vraiment une grande fan de Tabis, donc je ne vais pas en parler longtemps parce que tu en as très très bien parlé. Il y a une autre référence qui m'a marqué mon imaginaire et par rapport à l'océan notamment, c'est la série mythique pour les gens de mon âge qui s'appelle Les Cités d'Or. Parce qu'il y a donc l'histoire d'un jeune homme, qui est un jeune garçon, Stéphane, qui va partir à la recherche de ses origines en Amérique du Sud. Et en fait, on apprend au cours de l'histoire qu'il a été sauvé au cours d'un naufrage. Et c'est vrai que toute cette partie voilà, de caramel que moi j'ai mise dans mon roman, même si au tome 3 j'explique bien que quand même les caramels pour les peuples qui ont vécu voilà, à l'époque de Christophe Colomb, ça a été juste l'horreur, il faut quand même le dire aussi. Donc nous on a cet imaginaire de caramel, de découverte et tout ça, et de leur côté bah, ça a été l'invasion, ça a été les maladies et tout. Mais dans la série des Cités d'Or, il y a des enfants voyagent dans un condor, ils survolent l'océan, il y a effectivement tout cet imaginaire de la découverte du voyage, de la découverte d'autres civilisations qui m'a fasciné quand j'étais plus jeune.
Ce que vous ne savez peut-être pas à propos des Cités d'Or, c'est qu'en fait, il y a grands auteurs français que Daniel connaît très très bien, qui ont participé, qui ont écrit des scénarios. Il y a Christian Bonnier, qui est un grand auteur jeunesse. Il y a également Michel Jury. Et il y a aussi Joël Vintrobert, qu'on ne voit pas là en ce moment sur les festivals, mais qui ont participé et qui ont écrit, toutes les séries, mais qui ont écrit justement une partie des scénarios. Des Cités d'Or, vous voyez, donc ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop, mais
appelle le coquillage, et puis dans laquelle on a une sorte de maison qui s'adapte au niveau des eaux et qui a une influence très aquatique sur les protagonistes, qui va les maintenir dans une sorte de dépendance et qui va les entraîner dans une métamorphose à tous les niveaux, avec l'ambiance inimitable et le style qui est encore plus inimitable d'Estelle de Rochon. Alors, ce serait ça une de mes suggestions. Sinon, il y a le fameux aussi, que j'ai lu très jeune, la nouvelle Axolotte avec Cortazar. Je trouve qu'il y a un rapport obsessif à l'aquatique qui se passe quelque chose de très fascinant, mais j'oserais dire encore ambivalent, peut-être.
Bien, donc je crois que nous arrivons sur la fin de notre table ronde. Alors, si vous aviez peut-être une histoire à conseiller au public, ou si vous avez envie de raconter, évidemment, une petite histoire très brièvement, ou un début peut-être de nouvelles, de romans, quelque chose qui vous inspire par rapport à l'eau. Donc, ma dernière question, c'est est-ce que vous pourriez nous raconter soit la vôtre, soit une histoire qui vous a beaucoup plu, une de vos histoires d'eau, évidemment, avec le petit jeu de mots par rapport à cette question. Oui.
Je suis un peu pris de court. Je vais juste faire une petite remarque. J'ai perdu ton conseiller.
Ariane.
Et je trouve ça intéressant. Je pense à cette anecdote parce que lorsqu'on voit dire que c'est une histoire, mais le paradoxe, je ne sais pas si vous le savez, mais les deux endroits sur Terre où les marées sont les plus fortes, en fait, c'est la baie du Mont-Saint-Michel en France et ici au Canada. Je trouve ça intéressant que finalement, pour cette table ronde, on se retrouve avec des Français. Bon, moi, je viens de Bretagne, lui, on va dire de la France en général, et puis quelqu'un qui vient du Canada, du Québec, où on a les marées les plus importantes. Alors, on va dire que c'est une coïncidence, mais je trouve que c'est assez.
D'ailleurs, c'est dans la baie de Fundy, et puis que j'ai eu l'occasion de visiter encore.
Voilà. Donc,
c'est ça votre histoire.
Voilà, ce sera l'histoire. Prenez-le comme un début d'histoire. Ouais.
Je vais boucler la boucle. J'ai commencé en disant que j'avais une belle de mer, et l'expérience du pire mal de mer que j'ai eue, c'était sur le paquebot France. Parce que j'ai eu la chance de faire une croisière sur le France, et en mer Atlantique, c'était très bien. On est passé à Gibraltar, en mer Méditerranée, c'était une véritable catastrophe. On avait des vagues de 15 mètres, le paquebot secouait dans tous les sens, craquait dans tous les sens, un coup épouvantable. J'ai cru ma dernière heure arriver. Et simplement, mon histoire d'eau à moi, c'est ça, c'est-à-dire que le paquebot France fait 300 mètres de long, les abîmes d'outre-mer font 3 km de long. C'est-à-dire que moi, j'ai vu que 300 mètres ne suffisaient pas pour être sécurisé, j'ai mis 3 km carrément pour mes vaisseaux spatiaux.
Juste quelque chose qui, en rapport avec le thème, est un peu éloigné, mais un roman qui parle. Un très court roman, très peu connu, et qui parle d'océan, mais surtout qui parle des auteurs qui en parlent, que j'aimerais conseiller si vous vous intéressez justement à vraiment le processus d'écriture. C'est un roman de Juno qui s'appelle Pour saluer Melville. Enfin, techniquement, de jour, on dirait plus une novella. Et vraiment, ça raconte juste comment Melville devient Melville, c'est-à-dire comment quelque part, comment un être humain devient un écrivain. Et devient un écrivain ici en plus, donc de romans maritimes. Et voilà, c'est l'un des plus beaux et des plus courts, mais bon, c'est bien, romans sur la littérature que j'ai pu lire, donc je le conseille beaucoup. Merci Estelle. Je vous parlais de mon pseudo en fait, parce que donc c'est un pseudo, mais au Pémano. Et quand je suis allée voir l'éditrice en disant je voudrais écrire sous pseudo, elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, il y a d'autres auteurs Castelmore qui sont sous pseudo, et moi, mon pseudo à moi, c'est Christine Europé. Et elle me dit ah oui, mais c'est pas possible d'avoir juste un prénom, parce que pour le référencement du livraire, c'est la galère et tout. Elle me dit il faut que tu te trouves un nom. Alors j'ai réfléchi et tout ça, et puis du coup, je me suis arrêtée à Malo, parce que Saint-Malo, parce que le roman était très ancré dans la réalité maritime. Donc voilà, ça sera mon petit histoire à moi.
C'est exactement ce que vous voilà. Très jolie histoire. J'aurais envie d'aller dans le sens de l'histoire du mal de mer, parce qu'en fait, j'ai à peu près jamais le mal de mer. Et puis, quand je disais, je suis de l'eau, je l'aime bien. En dessus, c'est un autre exemple. Je me rappelle d'une nuit, il y avait une tempête incroyable. J'étais dans le Nordic Express, très mal nommé, qui est un cargo qui va très, très lentement. Et ensuite, on était pour aborder Anticosti, qui est une île très, très difficile d'accès, qui est en gros au milieu du Saint-Laurent lorsqu'on arrive. Parce qu'il y a du réfoto, il y a une bordure rocailleuse, tout ça. Alors, on arrive et on me raconte une autre histoire au premier souper, qui était une histoire historique, véridique, de cannibales et de naufrages, qui, finalement, il avait eu un naufrage sur la pointe de l'île, et ensuite, c'est un bateau qui s'appelait le Granicus, et avec une histoire assez horrifique, merci, qui m'a inspiré, d'ailleurs, par la suite. Et les gens d'Anticosti de l'île prennent ça